Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais tenter, attention, Adichat, Satota, Satot. Est-ce que c'est correct ou pas?
Pas du
Dominique,
tout.
Dominique, pas du tout. Voilà, je le savais.
Adichat, oui.
Oui.
À toutes et à toutes.
À toutes et à toutes.
À toutes.
À toutes.
À toutes, non. À toutes et à toutes.
Alors, donc ça veut dire bonjour à toutes et à tous, hein, voilà, mais c'était de l'Occitan, du Gascon. Aujourd'hui, l'émission, vous avez compris, ça va être un peu ça le sujet. On reçoit aujourd'hui Dominique Comette des OC Bidax, Association pour le bilinguisme français-occitan dans l'enseignement public. Voilà, on va passer une heure ensemble pour découvrir cette association et ses actions. Bonjour Adichat, Dominique, comment allez-vous?
Ça va bien, et vous-même?
Très bien.
Vous n'êtes pas perturbé par l'Occitan de la Gascogne?
Non, je suis pas doué. Je suis pas doué pour les langues en général. Je fais ce que je peux avec le français déjà. Mais bon, je vais faire de mon mieux, mais on va parler de ce que vous maîtrisez un peu mieux et qui est important, je pense, pour pas mal de nos auditeurs. On va d'abord écouter le flash info national et international. Et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Nous voilà de retour avec notre invité. Alors Dominique, si vous voulez bien vous livrer la petite tradition ici, c'est on aime bien avoir une petite idée de la trajectoire personnelle des gens, une petite histoire de ce qu'ils ont fait dans leur vie pour arriver jusqu'à ce micro à ce jour. En français, si c'est possible.
D'accord.
Mais vous pouvez émailler deux mots de gascon si vous donnez le mot équivalent, parce que sinon, moi, je serais perdu. Je suis désolé.
Non, mais... je suis de pure souche landaise, comme on dit. C'est-à-dire de parents landais, côté maternel, côté paternel. Je suis ensuite parti loin de mon pays natal, dans le Languedoc, du côté de Toulouse, où j'ai commencé à vivre ma vie d'adulte. Et puis, après j'ai quitté le Languedoc parce que c'était vraiment trop particulier. Alors je suis allé en Provence. En Provence, c'est quand même un peu mieux, il fait un peu plus chaud, et puis on ne parle pas du tout la même langue, on parle surtout le provençal. Mm-hmm. Ce qui fait que, de fil en aiguille, et quand j'ai eu le mal du pays que je suis revenu chargé et de l'accent provençal, donc Marseille, Avignon, voilà, et puis du languedocien donc qui m'est resté. Et donc je suis revenu dans mes Landes natales, et c'est là que j'ai appris que Gaston Phébus, justement, il était et languedocien et gascon.
D'accord.
Donc j'ai été rassuré, et surtout que la langue, c'est elle qui m'a toujours accompagné, la langue, ma langue maternelle, je veux dire,
oui.
Et qui m'a permis de vivre dans le sud de la France, de rencontrer différentes cultures occitanes. Et finalement, quand je suis revenu dans les Landes, bon, c'est avec ça et autour de ça que ma vie s'est faite par la suite. Ce qui fait que, même si j'ai un fils qui est languedocien, puisqu'il est né à Toulouse, j'ai aussi une fille qui est née dans les Landes. Ce
D'accord.
qui fait que... Je me suis intéressé à justement l'enseignement gascon, occitan de Gascogne. Et c'est comme ça que, parce que des parents m'ont demandé de les accompagner dans la construction, la mise en place d'une association qui s'appelle OCBIDAX, je me suis retrouvé à les accompagner et à faire tout ce qu'il était possible de faire pour accompagner les enfants dans l'enseignement du gascon, du bilinguisme, en fait.
Voilà. D'accord. Alors vous-même, vous avez fait des études en rapport avec ça, avec la langue ou pas? Enfin, vous l'êtes indiscret, hein?
Non, mais vous n'êtes pas indiscret. Absolument, j'ai toujours fait ça. J'ai eu un BEP d'électricien. Ensuite, j'ai fait le Conservatoire d'art dramatique de Toulouse. Ensuite, j'ai créé ma propre compagnie en Provence. Pardon. Et je suis revenu dans les Landes où j'ai commencé à faire des spectacles en gascon.
D'accord. Voilà. Ah oui. Donc effectivement, alors on a compris que là, le sujet un peu aujourd'hui, c'est le bilinguisme. Hein. Donc bilingue, au moins vous l'êtes en tout cas, enfin, peut-être plus si vous considérez d'autres langues que vous connaissez peut-être encore. Mais, et comment c'est, ça s'est passé justement au niveau de l'enfance? Est-ce que c'est dans le milieu familial, avec les parents, ils parlaient gascon et français, ou c'est arrivé par ailleurs, purement le milieu familial?
Au rugby surtout.
Oui.
C'est au rugby, on parlait le jargon rugbystique et surtout gascon.
D'accord.
Il passe à Le Bushig, etc. etc.
Il y a les jurons aussi.
Voilà, c'est ça.
C'est souvent, d'ailleurs, une langue étrangère, c'est marrant, quand on va dans un autre pays et on apprend une langue, c'est souvent les jurons qu'on apprend en premier. Bon.
Et le cri du spectateur sur la touche, quand il y a un bon carton, comme on dit, ou une trucade, ou un essai qui est marqué. Vous connaissez le...
Non.
Alors, je m'écarte un peu du micro, ça fait...
Ah oui. Oui, ça c'est... Et avec l'accent. Hein. Ah oui, ça me rappelle des tas de blagues qu'on m'a racontées, ça, oui.
Voilà.
D'accord. Oui, alors donc, vous êtes donc dans... Ouais, vous êtes l'amour de cette langue, ces langues, et de sa transmission, ça c'est important, la transmission.
Oui, parce que je n'ai pas répondu à votre question, en fait. Oui.
Non mais je sais, mais c'est mon métier de contourner.
Voilà, tout à fait. Voilà, dans la transmission.
Oui.
C'est pour ça que vous me faites penser à un animal qu'on appelle l'anguille.
Ah
vous
oui.
Savez,
oui.
Qui vous la voyez de face et puis quand vous l'attrapez, hop, elle a déjà contourné.
D'accord.
D'accord. Mais c'est votre métier, donc c'est très bien. Donc j'y reviens. Moi, j'ai pas mal de difficultés avec ça pour l'expliquer. C'est-à-dire que c'est toujours ces arguments-là, ce que je vais vous dire, qui sont mis en avant. Ah, ben je le comprends, mais je ne le parle pas. Mes grands-parents, ils le parlaient. Mais moi, je l'ai pas entendu. Et puis mes parents, bon, c'était uniquement pour s'engueuler, etc., etc. C'est oui. Bon, alors, je vais être plus gentil, c'est-à-dire que, oui, effectivement, c'est comme ça que la langue s'est transmise, mais comme pour le français, c'est-à-dire il n'y a rien de particulier par rapport à la langue. C'est celle qu'on pratique et c'est celle qu'on entend quand on a des parents, quand on est gamin. Donc moi, j'ai entendu les deux, et le gascon et le français. Mmh. Voilà. Donc on passe une génération, ce sont mes grands-parents qui parlaient à mes parents en gascon, mais les parents, eux, déjà, comme il y a eu une réussite sociale, ben, ils parlent déjà en français, et puis ensuite, parce que les grands-parents ont dit, tu sais, si tu parles le gascon, ben, tu vas te faire taper sur les doigts, et c'était le moins pire, se faire taper sur les doigts.
C'est vrai qu'à une époque, ça a été le cas, effectivement, au sens propre, au sens figuré. C'est vrai, et ça pour toutes les langues régionales.
Ah, hein, les oreilles décollées, les petits cheveux tirés qui arrachés.
Les règles sur le bout des doigts, les à genoux sur la règle aussi.
À genoux sur la règle. Il y en avait un autre, mais là, c'est mes grands-parents qui m'ont raconté. C'était un sabot en suspens autour du cou. Et donc, dès qu'il y avait un élève qui parlait qui parlait gascon. Donc, on lui mettait le sabot.
Ouais.
Et dès qu'il y en avait un autre qui parlait aussi, parce que ça échappait, hop, c'était lui qui portait le sabot. Et à la fin de la journée, le puni, c'était le dernier qui portait le sabot autour du cou.
Oui, c'est une manière d'ostraciser celui qui ose parler cette langue oni.
Voilà.
Voilà.
Alors, on parle, je veux préciser deux choses. C'est, première chose, parce que le terme occitan est utilisé. Donc, il faut savoir que l'occitan, c'est une langue, c'est une culture, mais ce n'est surtout pas un parti politique, par exemple, et que ça concerne tout le sud de la France. Ça va depuis, alors ça remonte jusqu'à Limoges, Clermont-Ferrand, et ça va des vallées italiennes jusqu'à l'océan Atlantique, Dinka la Magrane, comme on dit. Donc ça, c'est l'Occitanie. Et dans l'Occitanie, on parle et l'Auvergnat et le Provençal, la langue d'océan. Ce sont des formes, c'est la même langue, mais avec, puisque ce sont des origines latines et gauloises, gallo-romaines, donc en fait. Et, Et ensuite, donc, il y a, de par la situation géographique et les situations économiques géoéconomiques de ce pays, qui est l'Occitanie, eh bien, il y a des façons de parler qui diffèrent un peu. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ensuite, le mot gascon, oui, parce qu'on est en Gascogne, et les gens ici disent « patois ».
Oui, voilà, oui, oui.
Alors, donc, en fait, si vous parlez patois, vous parlez gascon.
Oui.
Mais ça ne veut pas dire que vous parlez le patois alsacien ou le patois... puisqu'il y a autant de patois qu'il y a de régions, en fait.
Oui, voilà. Oui, c'est ça.
Donc, et le patois est un mot qui est utilisé pour désigner les langues, de façon dépréciative, les langues maternelles, et qui n'ont pas eu la noble appellation de langue.
Quoi, oui, c'est ça.
Le
c'est
français,
vrai.
C'est la langue.
Oui.
C'est-à-dire que les Français nous ont colonisés.
Oui. Ah ben, de toute façon, historiquement, historiquement c'est le cas. En fait, c'est sûr que ces langues-là étaient plus prégnantes avant que le français soit désigné comme la langue officielle. Hein.
Tout à fait.
Ben, on va déjà faire notre première pause. Hein. On se retrouve après, c'est une petite pause musicale et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission.
D'accord.
Et nous voilà de retour avec Dominique. Alors, parlons un petit peu de votre association. Hein. Donc, elle est. Dites-nous un petit peu comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc, le sujet, c'est vraiment le bilinguisme. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure de tous les bienfaits du bilinguisme. On ne vous vend pas une pommade, hein, c'est des choses scientifiquement prouvées. C'est très très bon pour le cerveau de tout le monde en fait.
l'association OCBI, donc O-C-B-I, OCBI, OCBI, OC qui veut dire occitan de toute façon.
Oui.
Bilinguisme. C'est une association qui regroupe... et la Nouvelle-Aquitaine et un peu l'Occitanie, la région Occitanie. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça va faire un peu usine à gaz, comme on dit. Mais cette association OCBI, donc qui est régionale, chapeaute d'autres associations qui fédèrent d'autres associations qui sont créées dans les établissements où le bilinguisme existe. Le bilinguisme en français et occitan de Gascogne. Donc l'association OCBI Dax, elle est sur Dax, l'établissement scolaire Roger Badinter.
Oui.
Donc ça fait un peu plus de 10 ans que cet enseignement-là se fait. Elle a été le bilinguisme est apparu dans les Landes pour la première fois à Montfort, sous l'égide du maire de l'époque, dans les années 90, qui s'appelle
je ne saurais vous aider.
Maurice. Bon, ça me reviendra tout à l'heure.
Oui.
Et donc, le principe est d'accompagner... les parents sont présents et accompagnent aussi cet enseignement-là qui démarre dès la première année d'école maternelle et qui va jusqu'au lycée. Donc, sur l'établissement Badinter, ça va jusqu'au SCM2. Ensuite, il y a le collège d'Albret et ensuite il y a le lycée de Borda. La problématique pour nous parents, c'est d'essayer de temporiser cet écueil qu'il y a dans le passage de l'école élémentaire CM2 au collège, c'est-à-dire que entre petite section jusqu'à grande section en maternelle, actuellement il y a 32 élèves. L'année précédente, bien, il n'y en avait que 18. Voilà, c'est un peu en dents de scie. Et puis, quand on passe de CM2 au collège, est-ce que ça vient des parents? Est-ce que ça vient des conditions économiques et sociales? En tout cas, souvent, en CM2, il ne reste plus que 3, 4 élèves. Ce qui fait qu'en sixième, eh ben, après, il n'en reste plus que deux, un 3. Voilà. Mais comme je vous dis, c'est vraiment en dents de scie, puisque ça, je parle là pour cette année, mais les années précédentes, on se retrouvait avec en 6e, 6, 7 élèves. Voilà. Et au lycée, jusqu'à quelques années, il y avait 12, 14 élèves. Il y a eu une année où il n'y en avait plus que 6, et cette année, il y en a 2.
Oui.
Alors, et qui ont pris le cursus en cours de route.
Oui.
Voilà. Donc, c'est assez. Je dirais que l'enseignement français, même si les options existent, n'est pas très favorable justement à la continuité de l'enseignement d'une langue. D'autant que jusqu'au CM2, eh bien, c'est un enseignement qui se fait en français et en gascon, quelle que soit la matière. C'est-à-dire, ça peut être en France.
Maths, la physique.
Les maths et la physique.
Oui, un peu comme la section euro où il y a une langue et on fait des enseignements dans la langue.
Et bon, enfin, on en reparlera, mais c'est vraiment très, très intéressant pour les enfants, d'autant plus que ce sont des classes miroirs. C'est-à-dire qu'ils ont. Par exemple, en CME1, il pourrait y avoir 10 élèves ou 12 élèves, et ils sont avec des CME2 où il y a aussi, par exemple, 10 élèves. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec des classes où l'enseignement est comment dire, partagé, où les plus jeunes suivent les plus grands enseignent aussi aux plus jeunes, et voilà, il y a une plus grande pluralité d'enseignement culturel.
Oui, bien sûr. Oui. C'est vrai que des fois, on retrouve dans les écoles, surtout quand elles sont petites, plusieurs niveaux dans la même classe, parce que bon, on a des contraintes d'ouverture de classe.
Oui, aussi.
Donc je suppose que ça aussi, c'est le danger chaque année, quand on fait l'inventaire des locuteurs, on se dit aïe, 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 qu'est-ce que l'éducation nationale va me faire cette année. Vous avez vécu un peu dans cette peur, j'imagine.
Oui, il y a de ça. Ouais. Non, mais par exemple, il suffit souvent d'un changement à la direction. Hein. C'est, oui. Y a des, si vous prenez un directeur ou une directrice à l'école qui a connu le gascon, qui est espagnol, d'origine espagnole ou portugaise ou italienne, évidemment, qui seront beaucoup plus proches de ce qui de l'enseignement. Je dis ça d'autant plus que je connais certains établissements scolaires où justement il y a une très forte réticence à l'enseignement par le bilinguisme, et ça ne se passe vraiment pas bien, et au contraire ça déstructure l'enfant, et il sait plus trop où se retrouver après.
C'est dommage, parce que c'est dommage, parce qu'on va parler justement, on va faire une deuxième pause, on va écouter le Flash Info local, mais on va parler justement de l'intérêt du bilinguisme vraiment pour les enfants, et ça c'est une évidence. Voilà, on se retrouve tout de suite après ça. Et c'est reparti. Alors je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, on va en parler, préciser les choses. C'est que effectivement, il y a des purement, c'est des choses qui sont indéniables, hein, scientifiquement démontrées depuis longtemps dans la littérature, c'est que un enfant, un jeune, qui apprend une deuxième langue, enfin en tout cas qui a deux langues, qui est bilingue, eh bien en fait, il faut pas croire que ça encombre plus son cerveau. En fait, c'est le contraire. Il va être plus souple, souple intellectuellement parlant. Il va acquérir plus facilement une troisième langue s'il en a besoin. Enfin, il y a des tas d'avantages qui sont démontrés. Hein, donc, et puis voilà, une langue, c'est souvent aussi le porteur d'une culture aussi. Donc ça va avec aussi. On apprend des choses et on en sait un peu plus.
Oui, tout à fait. Vous voulez que je ne peux que vous approuver de toute façon.
Oui.
Mais peut-être une petite anecdote plus en contact avec notre monde contemporain. C'est ma fille a eu une tablette pour en Noël, je ne sais plus lequel, et donc avec une tablette, bon, c'est un ordinateur, donc on peut accéder à l'enseignement de certaines langues.
Oui.
Et donc comme elle elle a eu un enseignement, enfin elle continue à avoir un enseignement bilingue. Mmh. Eh bien, le simple fait de bilingue, je redis, oui. Gascon, français gascon, mmh. et le gascon a des origines latines, eh bien pour elle, oui. d'apprendre l'espagnol, mmh. ça ne lui pose pas des problèmes, donc elle mmh. va avec sa tablette sur l'enseignement espagnol, mmh. et puis donc elle suit cet enseignement-là de temps en temps. Mmh. L'italien l'intéresse aussi, donc voilà, c'est presque, on pourrait dire, tout le sud de la France, eh bien, c'est un réservoir de connaissances et d'une culture du bassin méditerranéen, on en est vraiment imprégné, mmh. et en même temps d'une langue qui est riche, qui apporte des... D'abord, qui nous laisse en lien avec une langue dite morte. Enfin, pour moi, elle n'est pas morte, puisqu'elle sert.
Oui.
Non, mais il y a des mots comme ça qui sont utilisés.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
On m'a dit un jour dans ma famille, bon, à quoi ça sert d'apprendre le patois, puisque de toute façon, c'est une langue morte. Et ce à quoi j'ai répondu, oui, bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'enseigne dans les universités et dans les universités étrangères. On pourrait être surpris de voir que aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, eh bien, dans les universités, donc en langue mondiale, oui. ben l'occitan est présent.
Oui.
Voilà. Donc et il y a pas si longtemps, il y a des japonais qui sont venus dans le coin et justement qui alors après je sais plus si c'est sur Toulouse ou sur Bordeaux, en tout cas ils sont venus parce que ils voulaient connaître encore mieux la langue. Mais
d'accord.
Je pense que c'est sur Toulouse.
Mmh. Ouais. Ah ouais, bah c'est ouais.
Oui oui, des étudiants en langue occitane.
Ouais ouais. Bon mais voilà, c'est la preuve que c'est pas du grec ancien quoi.
Ah non non,
ça c'est une langue morte hein. On est d'accord, le grec ancien, on peut le classer de langue morte hein, en théorie.
Oui oui oui. Oui oui, tout à fait, voilà. Tout à fait. Non non, c'est très important, d'autant plus que il faut quand même, je dis ça pour les auditeurs, c'est que regardez autour de vous des noms de chemins, des noms de routes, des noms de villages, de villes, ne serait-ce qu'à Dax. Ouais, on dit, ouais, les Romains, d'abord, ça ne s'appelait pas Dax, ça s'appelait Aquae.
Oui.
Comme...
Il y a de l'eau. Il y a de l'eau.
Il y a de l'eau dans l'histoire.
Aquitaine,
comme,
de l'eau, hein.
comme Aix en Provence. Oui. Et nous, on a Aix en Gascogne. Oui. Et on est sur, quand on prenait le chemin, on allait sur la route Dax.
Et oui, voilà, c'est ça.
Et
oui.
C'est devenu Dax. Je vais à Dax, mais oui. Normalement, je suis sur la route Dax, D'ACS.
Voilà, c'est ouais. ça. D'ailleurs, il y a pas mal de villes hein, dans le coin où effectivement il y a un X qui est apparu en contraction du C et du S, en fait.
Voilà,
c'est ça hein, qui
voilà,
s'est passé.
Ouais. C'est tout à fait ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Ou le F qui se transforme en H. Par
oui,
exemple aussi.
D'accord.
Et puis en même temps, on est proche des. Il y a le charneg pour ce qu'on appelle, que tout le monde connaît, le charneg. Pourtant, le charneg, ça s'écrit avec un X. Mm-hmm. Donc voilà, c'est une question d'écriture aussi. Oui. Ici, on va dire un jour, une journée. Mmh. Journée,
oui.
tout simplement.
Mmh.
Mais si on va dans le Béarn, ça va être une dille.
Mmh.
Et c'est el día espagnol.
Oui. Oui. Comme le dé, le jour en anglais aussi. Hein.
Oui, voilà.
Il ne faut pas oublier qu'on a quand même envahi les Anglais, ils nous ont envahi aussi, etc. On a laissé presque la moitié du vocabulaire anglais d'origine française, en fait.
Ouais, ouais. Eh bien, si vous allez sur Internet, on vous demande de. Il y a écrit cancel.
Oui.
Voilà, effacer.
Oui.
Ben, c'est cancel en gascon.
Oui, oui, voilà. Oui. C'est vrai.
Exemple.
Oui. C'est vrai que on a parlé aux antennes, mais le gascon, il était là avant le français. Hein.
Oui,
hein,
tout à fait.
Jusqu'à preuve du contraire. Donc, voilà.
Donc, un exemple d'une mm-hmm. ouverture, et parce qu'il y a des racines, bien entendu, allemandes.
Oui.
Donc germanique,
tout
pardon,
fait,
pas,
ouais.
pas allemande, mais germanique.
Ouais, germanique ouais.
Et saxonne, quoi. Voilà.
Mm-hmm. Alors, les gens, les élèves là, qui sont, dont vous parliez tout à l'heure, là, qui suivent les enseignements en gascon. Alors c'est la démarche, c'est vraiment les parents, parce que c'est les, est-ce que c'est les parents par volonté de sauvegarder leur patrimoine qui se disent voilà je vais mettre mon enfant, ou est-ce que aussi il y a des gamins qui sont déjà un peu immergés dedans et ça leur semble tout naturel, ils disent moi je veux ou un peu des deux. C'est quoi un peu le profil du locuteur de l'apprenant pour l'instant?
Moi je dirais une mesclagne, un mélange.
Oui.
Mais je dirais plutôt que ce sont des parents soucieux de l'enseignement que leurs enfants vont recevoir.
Mmh.
À partir du moment où ce sont, pour le moment, des classes avec des effectifs qui tournent autour de 15-20 enfants, voilà, c'est moins chargé. Il y a de moins en moins de places, il y a de moins en moins d'enseignants.
Oui.
Donc, au lieu d'avoir une classe de 30 élèves ou de 25 élèves, ce sont des classes où il y a 12-15 élèves. Déjà, ça attire. Ensuite, il y a des familles qui sont déplacées, mais qui sont, par exemple, du côté de Toulouse, mais où il y a moins d'enseignement bilingue, par exemple.
Mmh.
Et ils sont dans une ville où il y a un enseignement bilingue et qui les rapproche de leur culture, languedocienne,
oui.
ou qui viennent de Tarbes, qui viennent travailler à Dax. Voilà, il y a quand même un environnement social qui est économique et qui est important. Et ensuite, il y a des parents qui sont... Alors, je veux dire exprès qu'ils vont venir de Normandie travailler dans le sud-ouest et puis qui se retrouvent dans un coin où ils s'aperçoivent que le nom des lieux, le nom, la culture tout simplement, même culinaire, etc.
Étrangère.
Leur est complètement étrangère et ils ont des enfants qui vont aller à l'école et qui ont la possibilité d'apprendre une langue qui correspond à la région.
Ouais, c'est ça, c'est une volonté d'intégration d'un immigré, en fait, que vous décrivez. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose.
Oui, mais consenti.
Oui, bien
sûr. Voilà. Et ça, c'est très important pour le développement et des familles, et des enfants. Et donc, les parents ont envie que leurs enfants soient justement intégrés dans une vie sociale et culturelle locale.
Oui, bien sûr, c'est tout à fait naturel. Oui. Donc c'est vrai que, voilà, on en a parlé un petit peu, mais ouais, c'est vrai que les langues dites régionales, hein, ont été ostracisées. Hein. Il y a une oppression institutionnelle et culturelle par la France pendant longtemps. Hein. C'est une reconnaissance tardive vers 2008 où la Constitution est censée prendre dans son giron l'acceptation de ces langues dites régionales, en fait.
Oui, tout à fait.
C'est pas très récent. Enfin, c'est trop récent, je trouve. 2008.
Ah oui, j'ai retrouvé le nom du
maire de Montfort.
Maurice Gassy.
D'accord.
Voilà, qui est récemment, malheureusement, décédé.
Oui.
Et qui a fait énormément pour Montfort, la ville de Montfort. Et c'était un monsieur vraiment qu'il faut très respecter et honorable.
Oui. Mmh.
Il a beaucoup fait pour le développement, justement, et la conservation de notre langue.
Oui.
Il a, par exemple, créé le musée de Chalosse, ce qui n'est pas rien.
Oui, bien sûr. Voilà. Hein.
Et donc, pour revenir à notre propos, ce qui est important, c'est que l'enfant ne soit pas... D'abord, qu'il soit accompagné par ses parents et qu'il ne soit pas du tout dépaysé avec la culture qui l'environne.
Mmh.
Et charge à nous, qui parents, de créer des événements ou d'accompagner les enfants dans des événements qui ont un rapport avec notre culture.
Mmh,
alors, ce que je peux dire, c'est que au niveau théâtre, c'est pas trop présent. Il n'y a jamais eu trop de théâtre dans le sud-ouest, au sens traditionnel du terme. Mmh. Mais par contre, pour tout ce qui est danse, je ne parle pas du folklore, mais des danses. Par exemple, le saut béarnais, c'est très particulier. C'est vraiment une danse très particulière. Mais aussi la musique, les instruments de musique, les chants polyphoniques.
Bien, oui.
On n'a rien à envier aux Corses. Hein,
oui, oui.
Voilà, ça fait partie vraiment de notre culture, le toun-toun, le tambourin. Mmh. Et franchement, je trouve que si on est un peu curieux, Internet est vraiment un outil. On a la chance d'avoir cet outil-là.
Ah oui, oui, tout à fait.
Parce qu'on trouve tout. Et même d'anciens reportages faits par, à l'époque, de France 3 ou FR3.
FR3. Oui.
Et il y a des reportages. C'est vrai que elle était beaucoup plus présente, cette culture-là, sur nos écrans, qu'elle ne l'est maintenant. Mmh. Maintenant, c'est un peu plus mercantile, un peu plus consumériste, je dirais. Oui. Mais non, on trouve des choses vraiment très, très intéressantes, hein, au niveau historique, linguistique, social, économique.
Oui. Très bien. Mais ça va très vite, on discute et le temps avance. Hein. On arrive déjà à la dernière pause qui nous amène sur la dernière partie de cette émission. On se retrouve après cette petite pause musicale, tout de suite. Nous voilà de retour. Alors, j'ai discuté un petit peu hors antenne avec notre invité aussi de l'actualité, hein, l'actualité qui le concerne, et puis tout ce qui gravite autour de ces centres d'intérêt. Vous pouvez nous en parler un petit peu.
Par exemple, j'ai écrit un livre bilingue sur avec des nouvelles écrites en gascon et traduites en français.
Alors, ça se présente comment, votre livre bilingue? C'est une page en gascon, une page en français, ou c'est alterné? Comment vous gérez?
Alors, c'est pour qu'il y ait une meilleure compréhension, c'est une page en gascon et en face il y a le texte. D'accord. En français, le même, mais on respecte vraiment les lignes. Et ensuite il y a, à la fin de chaque nouvelle, il y a un QR code qui permet de renvoyer sur le texte qui est dit.
Ah, mais ça c'est génial, comme idée. Voilà. Alors c'est vraiment une super idée, ça, je trouve.
Donc il y a plus le CD à la fin du bouquin, mais maintenant il y a un QR code.
Oui, c'est bon, voilà, on vit avec son temps, mais non, mais ça c'est bien.
C'est-à-dire que si vous êtes dans le train, que vous vous ennuyez,
Oui, et puis voilà, une langue écrite et à parler, c'est pas pareil. Voilà. C'est bien d'entendre un petit peu les sonorités.
Donc c'est un livre qui se lit, qui s'écoute.
Ah ouais, super. Ouais, d'accord.
Et traduit. Voilà. Alors ensuite, je fais aussi des conférences théâtralisées, c'est-à-dire, je suis pas assis derrière une table dans le style politique bureau soviétique.
Oui, oui.
Écoutez ce que je dis et pas un mot. Mais donc avec, ça s'appelle le pain béni. Le ping senyat, c'est-à-dire, c'est un jeu de mots avec le pain béni, bien entendu, chrétien, et où je parle du changement de mes landes natales, des airs landais de Félix Arnaudin jusqu'à la colonisation par le pain et des structures commerciales autour du pain.
Oui.
C'est-à-dire des pains devant, des pains derrière, à droite, à gauche. Ouais. Notre horizon est relativement limité, alors que nous avons en gascon un horizon qui s'appelle, on dit l'horizon, bien entendu, mais on dit l'oupé du seu. L'oupé du seu, c'est-à-dire le pied du ciel. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait tellement pas de pain. Oui. Et que c'était une lande rase jusqu'aux dunes.
Oui.
Donc le ciel se...
Il marchait directement sur la terre.
Hein. Voilà, c'est ça.
Oui, d'accord. Ouais, c'est vrai que ces forêts sont un petit peu artificielles. Heureusement qu'il y a des coins où il y a des jolies chaînes, quand même.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Heureusement.
Tout ça pour dire que la langue gasconne est très, très poétique et a beaucoup d'esprit.
Oui.
Et d'ailleurs, en gascon, on dit « esprit ». C'est l'esprit et c'est l'humour aussi. Esprit gascon, c'est l'humour gascon. Ça, tout le monde le connaît.
Oui, je crois, oui. On le pratique, qu'on le veuille ou non.
Donc, il y a ça. Et puis, avec l'association, nous allons mettre en place un dispositif qui s'appelle Famille en Langue, c'est-à-dire famille en langue, où les familles, les parents qui ont leurs enfants en classe bilingue, sont invités à passer une journée ensemble avec des artistes qui vont être là sur place et où les parents, s'ils ne parlent pas déjà la langue, en tout cas, peuvent avoir une initiation au gascon en même temps que les enfants rencontrent des animateurs et des artistes gascons.
Très bien. Oui, alors c'est vrai qu'on se retrouve dans une sorte de paradoxe, surtout, vous devez les voir un peu comme ça, on se retrouve à devoir apprendre notre langue maternelle. Enfin, vous allez le voir comme ça, j'imagine.
Oui, mais c'est pas péjoratif, au contraire. Ouais. Quel plaisir d'avoir une langue maternelle parlée. Mmh. Et après, il y a des gens qui disent, ouais, je la parle, mais je ne sais pas l'écrire, mmh. Je ne sais pas la lire. Alors qu'il y a juste quelques prononciations, oui. de consonnes et de voyelles, mmh. et ça y est, vous pouvez lire très couramment, c'est très proche du, enfin c'est pas très proche du français, mais c'est une langue latine, oui, donc langue latine, oui. On n'est pas du tout trop décontenancé, on apprend assez vite.
Voilà. Oui, c'est vrai, oui.
Et familier en langue, c'est fait pour ça, c'est-à-dire que pour une initiation en gascon, ben voilà, mmh. au mois d'avril, il y aura des personnes, des parents qui vont apprendre à prononcer correctement le gascon.
Oui, voilà. Ça ferait pas de mal à certaines personnes ici.
Oui, oui. Hein.
je sais. faut que je fasse des efforts. Je vais faire des efforts. C'est promis.
Juste une petite anecdote. Oui. Dans mon village, il y avait un quartier qui s'appelle Tintehiu. Mmh. Alors, donc, bien sûr, ils ne nous ont pas consultés, nous, les Gascons. Mmh. Et alors, ils ont écrit Tintehiu.
Oui.
C'est très joli, Tintehiu.
Oui.
Parce que, bien évidemment, si on prononce avec l'accent, ça fait Tinte et puis Iu après. Ouais. I-H-I-O-U, eux, ils ont mis.
Oui.
Tintehiu. Et en fait, c'est Tintehiu. C'est un endroit où il y avait des plantes qui poussaient, je ne me rappelle plus du nom. C'est des plantes qu'on disait Tintehiu. C'est-à-dire qu'on se servait des grappes de ce végétal pour teindre pour en faire une teinture pour les fils.
Oui, oui.
Pour les fils de laine, pour. Voilà.
Une sorte de rouge ou de carmin.
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais,
c'est ça.
Mais je vois, mais c'est des plantes qu'on trouve des fois dans des. J'appelle ça des dévastations, là, quand
tout
on coupe tous les plants, les pins.
Oh, ouais.
Il y a ces plantes avec des espèces de fruits, là, voilà.
Oui, des grappes, comme la réserve, mais elles sont vert pâle.
Voilà. Avec une tige un peu rouge, qui ne donne pas envie de les goûter.
Non.
Ouais, je vois très bien ce que c'est comme plante.
Donc, ça veut dire Tintehiu, tout simplement. Tintehiu, Tintehiu. Alors, évidemment, si on n'écrit pas correctement.
Et oui, ça change tout, oui.
Voilà.
Oui. Bon, c'est vrai qu'une langue, c'est le vecteur d'une culture et d'une histoire. Hein.
Mais oui, mais Tintehiu, ça raconte rien du tout. Tintehiu, oui.
Et voilà, c'est ça.
Voilà.
Très bien. Bon, ben, merci beaucoup. On aurait pu passer encore beaucoup de temps. Et voilà.
Ben, la semaine prochaine.
Voilà. Bientôt. Ben, sur la prochaine fois, j'ai compris, j'ai intérêt à bosser. Là, parce que là, sinon,
la prononciation.
Oui, la prononciation et tout. Parce que bon, c'est vrai, je ne suis pas au point. Je suis vraiment désolé. Ben, merci beaucoup, Dominique, d'être venu. C'était vraiment passionnant.
D'aplazé et d'inkaleo.
Adichat.
Adichat.